Dans le faubourg Saint-Pierre-des-Corps à Tours, une femme, dont le mari avait disparu lors du licenciement de l'armée de la Loire en 1816 et qui naturellement fut pleurée beaucoup, se fit remarquer par une excessive dévotion. Quand les missionnaires parcoururent les villes de province pour y replanter les croix abattues et y effacer les traces des impiétés révolutionnaires, cette veuve fut une des plus ardentes prosélytes. Elle porta la croix, elle y cloua son cœur en argent traversé d'une flèche, et longtemps après la mission, elle allait tous les soirs faire sa prière au pied de la croix qui fut plantée derrière le chevet de la cathédrale. Enfin vaincue par ses remords, elle se confessa d'un crime épouvantable. Elle avait égorgé son mari, comme on avait égorgé Fualdès, en le saignant. Elle l'avait salé, mis dans deux vieux poinçons, en morceaux, absolument comme s'il se fût agi d'un porc. Et pendant fort longtemps, tous les matins, elle en coupait un morceau et l'allait jeter dans la Loire. Le confesseur consulta ses supérieurs et avertit sa pénitente qu'il devait prévenir le procureur du roi. La femme attendit la descente de la justice. Le procureur du roi, le juge d'instruction en visitant la cave, y trouvèrent encore la tête du mari dans le sel et dans un des poinçons. « Mais malheureuse, dit le juge d'instruction à l'inculpé, puisque vous avez eu la barbarie de jeter ainsi dans la rivière le corps de votre mari, pourquoi n'avez-vous pas fait disparaître aussi la tête ? Il n'y aurait plus eu de preuves. » « Je l'ai bien souvent essayé, monsieur, dit-elle, mais je l'ai souvent trouvée trop lourde. » « Eh bien, qu'a-t-on fait de la femme ? S'écrièrent les deux Parisiens. « Elle a été condamnée et exécutée à Tours, répondit le magistrat. Mais son repentir et sa religion avaient fini par attirer l'intérêt sur elle, malgré l'énormité du crime. « Eh ! Sait-on, dit Bianchon, toutes les tragédies qui se jouent derrière le rideau de ménage que le public ne soulève jamais. Je trouve la justice humaine malvenue à juger des crimes entre époux. Elle y a tout droit comme police, mais elle n'y entend rien dans ses prétentions à l'équité. » « Bien souvent, la victime a été pendant si longtemps le bourreau, répondit naïvement Madame de la Baudraye, que le crime paraîtrait quelquefois excusable si les accusés osaient tout dire. » Cette réponse provoquée par Bianchon et l'histoire racontée par le procureur du roi rendirent les deux Parisiens très perplexes sur la situation de Dinah. Aussi, lorsque l'heure du coucher fut arrivée, y eut-il un de ces conciliabules qui se tiennent dans les corridors de ces vieux châteaux où les garçons restent tous, leurs bougeoirs à la main, à causer mystérieusement. Monsieur Gravier apprit alors le but de cette amusante soirée où l'innocence de Madame de la Baudraye avait été mise en lumière. « Après tout, dit Lousteau, l'impassibilité de notre châtelaine indiquerait aussi bien une profonde dépravation que la candeur la plus enfantine. Le procureur du roi m'a eu l'air de proposer de mettre le petit la Baudraye en salade. « Il ne revient que demain. Qui sait ce qui se passera cette nuit ?» dit Gatien. « Nous le saurons, s'écria Monsieur Gravier. » La vie de château comporte une infinité de mauvaises plaisanteries, parmi lesquelles il en est qui sont d'une horrible perfidie. Monsieur Gravier, qui avait vu tant de choses, proposa de mettre les scellés à la porte de Madame de la Baudraye et sur celle du procureur du roi. Les canards accusateurs du poète Hibicus ne sont rien en comparaison du cheveu que les espions de la vie de château fixent sur l'ouverture d'une porte par deux petites boules de cire aplatie et placées si bas ou si haut qu'il est impossible de se douter de ce piège. Le galant sort-il et ouvre-t-il l'autre porte soupçonnée? La coïncidence des cheveux arrachés dit tout. Quand chacun fut censé endormi, le médecin, le journaliste, le receveur des contributions et Gatien vinrent pieds nus, en vrais voleurs, condamner mystérieusement les deux portes et se promirent de venir à 5 heures du matin vérifier l'état des scellés. Jugez de leur étonnement et du plaisir de Gatien, lorsque tous quatre, un bougeoir à la main, à peine vêtus, vinrent examiner les cheveux et trouvèrent celui du procureur du roi et celui de Madame de la Baudraye dans un satisfaisant état de conservation. « Est-ce la même cire ? » dit Monsieur Gravier. « Est-ce les mêmes cheveux ? » demanda Lousteau. « Oui, dit Gatien. »« Ceci change tout, s'écria Lousteau. Vous aurez battu les buissons pour Robin des Bois. » Le receveur des contributions et le fils du président s'interrogèrent par un coup d'œil qui voulait dire « N'y a-t-il pas dans cette phrase quelque chose de piquant pour nous ? Devons-nous rire ou nous fâcher ?»« Si, dit le journaliste à l'oreille de Bianchon, Dinah est vertueuse, elle vaut bien la peine que je cueille le fruit de son premier amour. » L'idée d'emporter en quelques instants une place qui résistait depuis 9 ans au Sancerrois sourit alors à Lousteau. Dans cette pensée, il descendit le premier dans le jardin, espérant y rencontrer la châtelaine. Ce hasard arriva, d'autant mieux que Madame de La Baudraye avait aussi le désir de s'entretenir avec son critique. La moitié des hasards sont cherchés. « Hier, vous avez chassé, monsieur, » dit Madame de La Baudraye. « Ce matin, je suis assez embarrassée de vous offrir quelque nouvel amusement. À moins que vous ne vouliez venir à La Baudraye, où vous pourrez observer la province un peu mieux qu'ici. Car vous n'avez fait qu'une bouchée de mes ridicules. Mais le proverbe sur la plus belle fille du monde regarde aussi la pauvre femme de province. » « Ce petit sot de Gatien, » répondit Lousteau, « vous a répété sans doute une phrase dite par moi pour lui faire avouer qu'il vous adorait. Votre silence avant-hier pendant le dîner et pendant toute la soirée m'a suffisamment révélé l'une de ces indiscrétions qui ne se commettent jamais à Paris. Que voulez-vous ? Je ne me flatte pas d'être intelligible. Ainsi, j'ai comploté de faire raconter toutes ces histoires hier uniquement pour savoir si nous vous causerions à vous et à Monsieur de Clagny quelques remords. Oh, rassurez-vous, nous avons la certitude de votre innocence. Si vous aviez eu la moindre faiblesse pour ce vertueux magistrat, vous eussiez perdu tout votre prix à mes yeux. J'aime ce qui est complet. Vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer ce froid, ce petit, ce sec, ce muet usurier en poinçon et en terre qui vous plante là pour 25 centimes à gagner sur des regains. Oh, j'ai bien reconnu l'identité de Monsieur de La Baudraye avec nos escompteurs de Paris. C'est la même nature. 28 ans, belle, sage, sans enfant. Tenez, madame, je n'ai jamais rencontré le problème de la vertu mieux posé. L'auteur de Paquita la Sévillane doit avoir rêvé bien des rêves. Je puis vous parler de toutes ces choses sans l'hypocrisie de paroles que les jeunes gens y mettent. Je suis vieux avant le temps. Je n'ai plus d'illusions. En conserve-t-on au métier que j'ai fait ? En débutant ainsi, Lousteau supprimait toute la carte du pays de Tendre, dans laquelle les passions vraies font de si longues patrouilles. Il allait droit au but et se mettait en position de se faire offrir ce que les femmes se font demander pendant des années. Témoin le pauvre procureur du roi, pour qui la dernière faveur consistait à serrer un peu plus coitement qu'à l'ordinaire le bras de Dinah sur son cœur en marchant. L'heureux homme. Aussi, pour ne pas mentir à son renom de femme supérieure, Madame de La Baudraye essaya-t-elle de consoler le Manfred du feuilleton en lui prophétisant tout un avenir d'amour auquel il n'avait pas songé. « Vous avez cherché le plaisir, mais vous n'avez pas encore aimé, » dit-elle. « Croyez-moi, l'amour véritable arrive souvent à contresens de la vie. Voyez Monsieur de Jantz tombant dans sa vieillesse, amoureux de Fanny Elsler, et abandonnant les révolutions de juillet pour les répétitions de cette danseuse. « Cela me semble difficile, » répondit Lousteau. « Je crois à l'amour, mais je ne crois plus à la femme. Il y a sans doute en moi des défauts qui m'empêchent d'être aimée, car j'ai souvent été quittée. Peut-être ai-je trop le sentiment de l'idéal. » comme tous ceux qui ont creusé la réalité. Madame de La Baudraye entendit enfin parler un homme qui, jeté dans le milieu parisien le plus spirituel, en rapportait les axiomes hardis, les dépravations presque naïves, les convictions avancées, et qui, s'il n'était pas supérieur, jouait au moins très bien la supériorité. Étienne eut, auprès de Dinah, tout le succès d'une première représentation. Paquita la Sancerroise aspira les tempêtes de Paris, l'air de Paris. Elle passa l'une des journées les plus agréables de sa vie, entre Étienne et Bianchon, qui lui racontèrent les anecdotes curieuses sur les grands hommes du jour, les traits d'esprit qui seront quelque jour l'Anna de notre siècle, mots et faits vulgaires à Paris, mais tout nouveau pour elle. Naturellement, Lousteau dit beaucoup de mal de la grande célébrité féminine du Berry, mais dans l'évidente intention de flatter Madame de La Baudraye et de la mener sur le terrain des confidences littéraires, en lui faisant considérer cet écrivain comme sa rivale. Cette louange enivra Madame de La Baudraye, qui parut à Monsieur de Clagny, au receveur des contributions et à Gatien, plus affectueuse que la veille avec Étienne. Ses amants de Dinah regrettèrent bien d'être allés tous à Sancerre, où ils avaient tambouriné la soirée d'Anzy. Jamais, à les entendre, rien de si spirituel ne s'était dit. Les heures s'étaient envolées sans qu'on pût en voir les pieds légers. Les deux Parisiens furent célébrés par eux comme deux prodiges. Ces exagérations trompettées sur le mail eurent pour effet de faire arriver 16 personnes le soir au château d'Anzy, les unes en cabriolet de famille, les autres en char à bancs, et quelques célibataires sur des chevaux de louage. Vers 7 heures, ces provinciaux firent plus ou moins bien leur entrée dans l'immense salon d'Anzy, que Dinah, prévenue de cette invasion, avait éclairé largement, auquel elle avait donné tout son lustre, en dépouillant ses beaux meubles de leur housse grise, car elle regarda cette soirée comme un de ses grands jours. Lousteau, Bianchon et Dina échangèrent des regards pleins de finesse en examinant les poses, en écoutant les phrases de ces visiteurs alléchés par la curiosité. Combien de rubans invalides, de dentelles héréditaires, de vieilles fleurs plus artificieuses qu'artificielles se présentèrent audacieusement sur des bonnets bisannuels. La présidente Boisrouge, cousine de Bianchon, échangea quelques phrases avec le docteur, de qui elle obtint une consultation gratuite, en lui expliquant de prétendues douleurs nerveuses à l'estomac, dans lesquelles il reconnut des indigestions périodiques. « Prenez tout bonnement du thé tous les jours, une heure après votre dîner, comme les Anglais, et vous serez guéri, car ce que vous éprouvez est une maladie anglaise, » répondit gravement Bianchon. « C'est décidément un bien grand médecin, » dit la présidente en revenant auprès de Madame de Clagny, de Madame Popineau-Chandelier et de Madame Gorju, la femme du maire. « On dit, » répliqua sous son éventail Madame de Clagny, « que Dina l'a fait venir bien moins pour les élections que pour savoir d'où provient sa stérilité. » Dans le premier moment de leur succès, Lousteau présenta le savant médecin comme le seul candidat possible aux prochaines élections. Mais Bianchon, au grand contentement du nouveau sous-préfet, fit observer qu'il lui paraissait presque impossible d'abandonner la science pour la politique. « Il n'y a, dit-il, que des médecins sans clientèle qui puissent se faire nommer députés. Nommez donc des hommes d'État, des penseurs, des gens dont les connaissances soient universelles et qui sachent se mettre à la hauteur où doit être un législateur. Voilà ce qui manque dans nos chambres et ce qu'il faut à notre pays. » Deux ou trois jeunes personnes, quelques jeunes gens et les femmes, examinaient Lousteau comme si c'eût été un faiseur de tours. « Monsieur Gatien Boisrouge prétend que Monsieur Lousteau gagne 20 000 francs par an à écrire, » dit la femme du maire à Madame de Clagny. « Le croyez-vous ? Est-ce possible, puisqu'on ne paye que 1 000 écus un procureur du roi ?»« Monsieur Gatien, » dit Madame Chandier, « faites donc parler tout au Monsieur Lousteau. Je ne l'ai pas encore entendu. »« Quelle jolie botte il a !» dit Mademoiselle Chandier à son frère. « Et comme elle reluise !»« Bon, c'est du vernis. Pourquoi n'en as-tu pas ?» Lousteau finit par trouver qu'il posait un peu trop et reconnut dans l'attitude des Sancerrois les indices du désir qui les avait amenés. « Quelle charge pourrait-on leur faire » pensa-t-il. En ce moment, le prétendu valet de chambre de la Baudraye, un valet de ferme vêtu d'une livrée, apporta les lettres, les journaux et remit un paquet d'épreuves que le journaliste laissa prendre à Bianchon, car Madame de la Baudraye lui dit, en voyant le paquet dont la forme et les ficelles étaient assez typographiques, « Comment ? La littérature vous poursuit jusqu'ici ?»« Non, pas la littérature, » répondit-il, « mais la revue où j'achève une nouvelle et qui paraît dans 10 jours. Je suis venu sous le coup de « la fin à la prochaine livraison » et j'ai dû donner mon adresse à l'imprimeur. Ah ! Nous mangeons un pain bien chèrement vendu par les spéculateurs en papier noirci. Je vous peindrai l'espèce curieuse des directeurs de revue. » « Quand la conversation commencera-t-elle » dit alors à Dina Madame de Clagny, comme on demande « à quelle heure le feu d'artifice ?»« Je croyais, dit Madame Popineau-Chandier, à sa cousine la présidente Boisrouge, que nous aurions des histoires. » En ce moment où, comme un parterre impatient, les Sancerrois faisaient entendre des murmures, Lousteau vit Bianchon perdu dans une rêverie inspirée par l'enveloppe des épreuves. « Qu'as-tu ? » lui dit Étienne. « Mais voici le plus joli roman du monde contenu dans une maculature qui enveloppait tes épreuves. Tiens, lis, Olympia ou les vengeances romaines. » « Voyons, » dit Lousteau en prenant le fragment de maculature que lui tendit le docteur, et il lut à haute voix ceci. Caverne. Rinaldo, s'indignant de la lâcheté de ses compagnons, qui n'avaient de courage qu'en plein air et n'osaient s'aventurer dans Rome, jeta sur eux un regard de mépris. « Je suis donc seul, » leur dit-il. Il parut penser, puis il reprit. « Vous êtes des misérables, j'irai seul, et j'aurai seul cette riche proie. Vous m'entendez ? Adieu. »« Mon capitaine, » dit Lamberti, « et si vous étiez pris sans avoir réussi ?»« Dieu me protège, » reprit Rinaldo en montrant le ciel. À ces mots, il sortit et rencontra sur la route l'intendant de Bracciano. « La page est finie, » dit Lousteau, que tout le monde avait religieusement écouté. « Il nous lit son ouvrage, » dit Gatien au fils de Madame Popineau-Chandier. D'après les premiers mots, « Il est évident, mesdames, » reprit le journaliste en saisissant cette occasion de mystifier les Sancerrois, « que les brigands sont dans une caverne. Quelle négligence mettaient alors les romanciers dans les détails, aujourd'hui si curieusement, si longuement observés, sous prétexte de couleur locale. Si les voleurs sont dans une caverne, au lieu de « en montrant le ciel », il aurait fallu « en montrant la voûte ». Malgré cette incorrection, Rinaldo me semble un homme d'exécution, et son apostrophe à Dieu sans l'Italie. Il y avait dans ce roman un soupçon de couleur locale. Peste ! Des brigands, une caverne, un Lamberti qui sait calculer ? Je vois tout un vaudeville dans cette page. Ajoutez à ces premiers éléments un bout d'intrigue, une jeune paysanne à chevelure relevée, à jupe courte, et une centaine de couplets détestables. Oh mon Dieu, le public viendra. Et puis, Rinaldo, comme ce nom-là convient à la fond. En lui supposant des favoris noirs, un pantalon collant, un manteau, des moustaches, un pistolet et un chapeau pointu. Si le directeur du vaudeville a le courage de payer quelques articles de journaux, voilà 50 représentations acquises au vaudeville et 6000 francs de droits d'auteur si je veux dire du bien de la pièce dans mon feuilleton. Continuons. La duchesse de Bracciano retrouva son gant. Certes, Adolphe, qui l'avait ramené au bosquet d'Oranger, put croire qu'il y avait de la coquetterie dans cet oubli, car alors le bosquet était désert. Le bruit de la fête retentissait vaguement au loin. Les fantoccini, annoncés, avaient attiré tout le monde dans la galerie. Jamais Olympia ne parut plus belle à son amant. Leurs regards, animés du même feu, se comprirent. Il y eut un moment de silence délicieux pour leurs âmes, et impossible à rendre. Ils s'assirent sur le même banc où ils s'étaient trouvés en présence du chevalier de Paluzzi et des rieurs. « Malpeste ! Je ne vois plus notre Rinaldo !» s'écria Lousteau. « Mais quel progrès dans la compréhension de l'intrigue un homme littéraire ne fera-t-il pas à cheval sur cette page ?» La duchesse Olympia est une femme qui pouvait oublier à dessein ses gants dans un bosquet désert. À moins d'être placée entre l'huître et le sous-chef de bureau, les deux créations les plus voisines du marbre dans le règne zoologique, il est impossible de ne pas reconnaître dans Olympia une femme de 30 ans, dit madame de la Baudraye. Adolphe en a dès lors 22, car une Italienne de 30 ans est comme une Parisienne de 40 ans. Avec ces deux suppositions, le roman peut se reconstruire, reprit Lousteau. Et ce chevalier de Paluzzi, hein? Quel homme! Dans ces deux pages, le style est faible. L'auteur était peut-être un employé des droits réunis. Il aura fait le roman pour payer son tailleur. À cette époque, dit Bianchon, il y avait une censure, et il faut être aussi indulgent pour l'homme qui passait sous les ciseaux de 1805 que pour ceux qui allaient à l'échafaud en 1793. Comprenez-vous quelque chose? Demanda timidement madame Gorju, la femme du maire, à madame de Clagny. La femme du procureur du roi, qui, selon l'expression de M. Gravier, aurait pu mettre en fuite un jeune cosaque en 1814, se raffermit sur ses hanches comme un cavalier sur ses étriers et fit une moue à sa voisine qui voulait dire « On nous regarde, sourions comme si nous comprenions. » « C'est charmant !» dit la mairesse à Gatien. « De grâce, Monsieur Lousteau, continuez !» Lousteau regarda les deux femmes, deux vraies pagodes indiennes, et put tenir son sérieux. Il jugea nécessaire de s'écrier « Attention !» en reprenant ainsi. Robe frôla dans le silence. Tout à coup, le cardinal Borborigano parut aux yeux de la duchesse. Il avait un visage sombre, son front semblait chargé de nuages, et un sourire amer se dessinait dans ses rides. « Madame, dit-il, vous êtes soupçonnée. Si vous êtes coupable, fuyez. Si vous ne l'êtes pas, fuyez encore, parce que, vertueuse ou criminelle, vous serez de loin bien mieux en état de vous défendre. » « Je remercie votre éminence de sa sollicitude, dit-elle. Le duc de Bracciano reparaîtra quand je jurerai nécessaire de faire voir qu'il existe. » « Le cardinal Borborigano !» s'écria Bianchon. « Par les clés du pape, si vous ne m'accordez pas qu'il se trouve une magnifique création seulement dans le nom, si vous ne voyez pas à ces mots, robe frôla dans le silence, toute la poésie du rôle de Schedoni, inventée par madame Radcliffe dans le confessionnal des pénitents noirs, vous êtes indigne de lire des romans. » « Pour moi, reprit Dina, qui eut pitié des 18 figures qui regardaient Lousteau, la fable marche, je connais tout. Je suis à Rome, je vois le cadavre d'un mari assassiné dont la femme, audacieuse et perverse, a établi son lit sur un cratère. À chaque nuit, à chaque plaisir, elle se dit « tout va se découvrir ». « La voyez-vous ? » s'écria Lousteau. Étreignant ce monsieur Adolphe, elle le serre, elle veut mettre toute sa vie dans un baiser. Adolphe me fait l'effet d'être un jeune homme parfaitement bien fait, mais sans esprit, un de ces jeunes gens comme il en faut aux Italiennes. Rinaldo plane sur l'intrigue que nous ne connaissons pas, mais qui doit être corsée comme celle d'un mélodrame de Pixérécourt. Nous pouvons nous figurer d'ailleurs que Rinaldo passe dans le fond du théâtre, comme un personnage des drames de Victor Hugo. « Et c'est le mari, peut-être ! » s'écria madame de la Baudraye. « Comprenez-vous quelque chose à tout cela ? » demanda madame Piedefer à la présidente. « C'est ravissant, dit madame de la Baudraye à sa mère. Tous les gens de Sancerre ouvraient des yeux grands comme des pièces de 100 sous. « Continuez de grâce !» fit madame de la Baudraye. Lousteau continua. « Votre clé, L'auriez-vous perdue? Elle est dans le bosquet. Courons! Le cardinal l'aurait-il prise? Non, la voici. De quel danger nous sortons? Olympia regarda la clé. Elle crut reconnaître la sienne, mais Rinaldo l'avait changée. Ses ruses avaient réussi. Il possédait la véritable clé. Moderne cartouche, il avait autant d'habileté que de courage, et soupçonnant que des trésors considérables pouvaient seuls obliger une duchesse à toujours porter à sa ceinture. « Cherche !» s'écria Lousteau. « La page qui faisait le recto suivant n'y est pas. Il n'y a plus pour nous tirer d'inquiétude que la page 212. » Si la clé avait été perdue, il serait mort. Mort ! Ne devriez-vous pas accéder à la dernière prière qu'il vous a faite et lui donner la liberté aux conditions qu'il... Vous ne le connaissez pas. Mais tais-toi, je t'ai pris pour amant et non pour confesseur. » Adolphe garda le silence. Puis voilà un amour sur une chèvre au galop, une vignette dessinée par Normand, gravée par Duplat. Oh, les noms y sont, dit Lousteau. Eh bien, la suite, dirent ceux des auditeurs qui comprenaient. Mais le chapitre est fini, répondit Lousteau. La circonstance de la vignette change totalement mes opinions sur l'auteur. Pour avoir obtenu sous l'Empire des vignettes gravées sur bois, l'auteur devait être un conseiller d'État ou Madame Barthélémy Adot, feu des forges ou Séverin. Adolphe garda le silence. Ah ! Dit Bianchon, la duchesse a moins de 30 ans. S'il n'y a plus rien, inventez une fin, dit Madame de la Baudraye. Mais, dit Lousteau, la maculature n'a été tirée que d'un seul côté. En style typographique, le côté de seconde, ou pour vous mieux faire comprendre, tenez, le revers, qui aurait dû être imprimé, se trouve avoir reçu un nombre incommensurable d'empreintes diverses. Elle appartient à la classe des feuilles dites de mise en train. Comme il serait horriblement long de vous apprendre en quoi consistent les dérèglements d'une feuille de mise en train. Sachez qu'elle ne peut pas plus garder trace des 12 premières pages que les pressiers y ont imprimées, que vous ne pourriez garder un souvenir quelconque du premier coup de bâton qu'on vous eût donné si quelque pacha vous eût condamné à en recevoir 150 sur la plante des pieds. « Je suis comme une folle, » dit Madame Popinot-Chandy à Monsieur Gravier. « Je tâche de m'expliquer le conseiller d'État, le cardinal, la clé et cette maculature. Vous n'avez pas la clé de cette plaisanterie, dit Monsieur Gravier. Eh bien, ni moi non plus, belle dame, rassurez-vous. Mais il y a une autre feuille, dit Bianchon, qui regarda sur la table où se trouvaient les épreuves. Bon, dit Lousteau, elle est saine et entière. Elle est signée 4J, deuxième édition. Mesdames, le 4 indique le 4e volume, le J, 10e lettre de l'alphabet, la 10e feuille. Il me paraît dès lors prouvé que, sauf les ruses du libraire, les vengeances romaines ont eu du succès, puisqu'elles auraient eu 2 éditions. Lisons et déchiffrons cette énigme. Corridor. Mais, se sentant poursuivi par les gens de la duchesse, Rinaldo, va te promener. Oh ! Dit Madame de la Baudraye, il y a eu des événements importants entre votre fragment de maculature et cette page. Dites, madame, cette précieuse bonne feuille. Mais la maculature où la duchesse a oublié ses gants dans le bosquet appartient-elle au 4e volume ? Au diable, continuons. Ne trouve pas d'asile plus sûr que d'aller sur le champ dans le souterrain où devaient être les trésors de la maison de Bracciano. Léger comme la Camille du poète latin, il courut vers l'entrée mystérieuse des bains de Vespasien. Déjà les torches éclairaient les murailles, lorsque l'adroit Rinaldo, découvrant avec la perspicacité dont l'avait douée la nature la porte cachée dans le mur, disparut promptement. Une horrible réflexion sillonna l'âme de Rinaldo, comme la foudre quand elle déchire les nuages. Il s'était emprisonné. Il tâta le... Oh, cette bonne feuille et le fragment de maculature se suivent. La dernière page du fragment est la 212 et nous avons ici 217. Et en effet, si dans la maculature, Rinaldo qui a volé la clé des trésors de la duchesse Olympia, en lui substituant une à peu près semblable, se trouve dans cette bonne feuille au palais des ducs de Bracciano, le roman me paraît marcher à une conclusion quelconque. Je souhaite que ce soit aussi clair pour vous que cela le devient pour moi. Pour moi, la fête est finie. Les deux amants sont revenus au palais Bracciano. Il est nuit, il est 1h du matin. Rinaldo va faire un bon coup. Et Adolphe ? Dit le président Boisrouge, qui passait pour être un peu leste en parole. « Et quel style !» dit Bianchon. « Rinaldo qui trouve l'asile d'aller !» Évidemment, ni Maradan, ni les Tretel et Wurtz, ni Doguereau n'ont imprimé ce roman-là, dit Lousteau, car ils avaient des correcteurs à leur gage qui revoyaient leurs épreuves, un luxe que nos éditeurs actuels devraient bien se donner. Les auteurs d'aujourd'hui s'en trouveraient bien. Ce sera quelque pacotilleur du quai. « Quel quai ?» dit une dame à sa voisine. « On parlait de bain. » « Continuez, » dit Madame de la Baudraye. En tout cas, ce n'est pas d'un conseiller d'État, dit Bianchon. C'est peut-être de Madame Adot, dit Lousteau. Pourquoi fourre-t-il là-dedans Madame Adot de la Charité ? Demanda la présidente à son fils. Cette Madame Adot, ma chère présidente, répondit la châtelaine, était une femme auteure qui vivait sous le consulat. Les femmes écrivaient donc sous l'empereur ? Demanda Madame Popinot-Chandier. Et Madame de Genlis ? Et Madame de Stel ? Fit le procureur du roi piqué pour Dinah de cette observation. Ah ! Continuez de grâce, dit Madame Laboudraye à Lousteau. Lousteau reprit la lecture en disant « Page 218 ».